Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
Une liberté de penser.
Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
Une force internationale.
Et même, on va plus loin.
Luc, la liberté.
Je le savais, Luc, je le savais. Le pont qui est tombé à Baltimore, c'est de la faute à Biden.
Ben voilà, le président. Et pourquoi c'est de sa faute? Pourquoi est-ce de sa faute, Richard? C'est là où c'est important. Il dormait quand c'est arrivé. Figure-toi que le président américain, à 1h30 dans la nuit, il dort. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et sur Fox News, on nous racontait un peu plus tôt aujourd'hui, ben, ça ne serait pas arrivé avec Trump parce qu'il dort pas à 1h30.
Ben voyons donc, tu me niaises, ils n'ont pas dit ça, là.
Écoute, on se serait assuré, en tout cas, qu'il soit réveillé.
Incroyable.
Et nettement plus en forme. Non, écoute, c'est pour dire, hein, on est tout se récupère. La politique a horreur du vide, pas que la nature. Donc, quand on a appris ce matin, donc non seulement il y avait eu ce contact entre un très très gros navire, un transporteur, et ce pont particulièrement important sur la 695, là, près de Baltimore. Donc, c'est une avenue particulièrement empruntée, utile pour les approvisionnements, entre autres choses, pour la circulation, bien entendu, des gens de la région. Mais quand on a appris que c'était tombé, on a trouvé le moyen de glisser au travers de l'information que ce ne serait pas arrivé sous Donald Trump. En tout cas, la réaction aurait été beaucoup plus rapide. Que peut faire le président 1h30 quand un navire sur lequel il n'a aucun contrôle frappe le pont? Ben, écoute, bonne chance pour ceux qui vivent dans les faits et non pas dans une réalité alternative. Mais on est parvenu à tenter de récupérer, en tout cas, ce qui est une véritable catastrophe, soit dit. Donc, on cherche encore des victimes. On sait qu'il y en a. On en cherche d'autres. Puis, en même temps, c'est catastrophique pour l'économie de la région. Donc, Ce fameux pont-là, je le répète, a une importance stratégique particulièrement grande.
Mais ça montre à quel point c'est tellement polarisé que la moindre petite affaire, on veut l'utiliser, voilà. L'instrumentaliser à des fins politiques, plutôt que de dire c'est une tragédie, ça dépasse la chicane entre républicains et démocrates.
Ça dépasse la partisanerie politique.
Ben oui, incroyable. L'ancienne présidente du Parti républicain passe à NBC.
Oui.
Et là, les journalistes et les animateurs de la chaîne sont en joie le vert.
Voilà, la nouvelle est intéressante parce que, rappelle-toi, d'autres médias ont essayé ça. Fox News, à l'occasion, invite des démocrates. Et on avait déjà dit, toi et moi, c'est bien que des démocrates y aillent. On s'attend à des confrontations, mais on donne l'occasion de présenter des points de vue. Pete Buttigieg, par exemple, avait été un des premiers dans la dernière campagne électorale à accepter. Bernie Sanders le fait aussi, mais de dire... Je réponds aux invitations de Fox News. On va essayer d'influencer ce qu'on appelle le narratif ou à tout le moins l'argumentaire. On pourra au moins exposer nos faits et nos opinions. Donc, Fox News le fait. CNN a tenté de créer un grand nombre d'émissions où on opposait comme ça des points de vue fort différents, très campés. Et là, c'est au tour d'NBC de le faire. NBC et MSNBC sont reconnus comme généralement offrant une couverture politique plus près des progressistes et généralement assez favorable aux démocrates. Donc, on a dit, on a la présidente démissionnaire du parti, Ronna McDaniel. On lui a offert un contrat, si j'ai bien lu, c'est quand même assez généreux, de 300 000 $, en lui disant, ben, venez contribuer à nos émissions. Et là, branle-bas de combat au sein de la chaîne. C'est très rare qu'on y va comme ça de tir ami, puis au vu et au su de tout le monde. Et des animateurs, vraiment, parmi les animateurs vedettes. Là, il y a une émission qui est très suivie aux États-Unis qui s'appelle Morning Joe. Et l'émission a dit, vous lui avez donné un contrat, vous vous arrangerez avec. Elle ne vient pas dans l'émission du matin. Il n'est pas question qu'à Morning Joe, on l'invite. La raison, ce n'est pas que ce soit une républicaine. La raison, c'est qu'elle a, depuis qu'elle est, pendant qu'elle était en fonction, parce que Donald Trump lui a demandé de partir, et bien sûr, elle a obtempéré, elle a obéi. Donc, Mme McDaniel, qui a quitté son poste, elle n'a jamais contredit Donald Trump depuis la campagne 2020. Donc, ce dont on l'accuse ou ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir avalisé tous ceux qui, chez les complotistes, disent il y a le deep state, il y a l'état secret, l'élection a été volée, on a lésé Donald Trump. Donc, finalement, on dit, écoutez, vous venez accorder une certaine crédibilité, vous venez accorder une légitimité à quelqu'un qui a encouragé les pires mensonges, alors que nous, puis là, on parle plus des journalistes, alors qu'on nous oblige, bien entendu, et c'est normal, à respecter des faits, là, vous donnez la parole et un généreux contrat à quelqu'un qui a entretenu les pires mensonges politiques, visant, entre autres, à saper la crédibilité. Donc, j'ai hâte de voir comment NBC va se sortir de ça.
Mais elle, oui. Elle aurait été embauchée comme chroniqueuse, c'est-à-dire pour donner son opinion. Oui, voilà. C'est pas une journaliste objective, là, en même temps. Là,
voilà. Voilà. En même temps, on a dit, écoutez, on veut lutter contre la désinformation. Et c'est vrai que les chroniqueurs, ils vont de leurs opinions. Mais même chez les chroniqueurs, on s'attend au moins à ce qu'ils respectent les faits.
Ben oui.
Ensuite, ce qu'on leur fait dire, on aime ou on n'aime pas, voici pourquoi je vais dans telle direction, mais ça, c'est le rôle du chroniqueur. Et on le sait, la chronique, c'est ce qui fait vivre les médias. Aux États-Unis en particulier, ce qu'on veut, c'est des chroniqueurs. Ce sont des opinions tranchées, et Dieu sait qu'il y en a. Mais là, il semble que pour les journalistes et les autres animateurs de la chaîne, on soit allé trop loin. Grosso modo, ceux que tu appelles généralement des coucous, ben là, on dit, écoutez, c'est comme donner la parole aux coucous pour montrer patte blanche du côté du fair and balance, hein, comme le disait Fox News.
De faire rentrer le renard dans le poulailler, là, finalement, de faire rentrer quelqu'un, une complotiste dans une chaîne qui se veut sérieuse. En terminant, journée importante, la Cour suprême se penche sur la pilule abortive à compter de ce matin.
Voilà, il n'est pas question que de M. Trump qui a obtenu hier réduction du montant qu'il a versé. Je pense même que c'est une bonne chose, mais la Cour suprême, ce qu'elle débute aujourd'hui, donc c'est l'écoute des argumentaires autour de l'accès à la pilule abortive. Pendant la pandémie, obtenir avant la pilule abortive, on ne pouvait le faire qu'en consultant un médecin ou encore une infirmière spécialisée. La FDA, donc la Food and Drug Administration, qui est responsable de la reconnaissance hein, ou de la légitimité de certains médicaments et de certaines pratiques, pendant la pandémie, a dit, cette fameuse pilule abortive, on va pouvoir maintenant l'avoir plus facilement. On peut l'avoir en consultant n'importe quelle infirmière, on peut l'avoir dans des pharmacies, et ça peut être à la suite d'une consultation web. On est rendu là au Québec aussi. Là, on peut rencontrer nos médecins sur le web quand on a la chance d'accéder à un médecin. Donc, aux États-Unis, on a dit, cette pilule abortive, on peut l'avoir comme ça. Et là, la Cour suprême se prononce justement sur ce que la Food and Drug Administration a mis en place comme système. Et c'est important parce que si la Food and Drug Administration va de l'avant et qu'elle dit ça, c'est que cette pilule abortive, on dit qu'elle est sans danger pour la santé de la femme. Il y a un certain nombre de jours, bien sûr, pendant lesquels on peut l'obtenir et la prendre. Mais on dit scientifiquement, les risques sont quasi absents dans ce dossier.
Mais Luc, donc, ceux qui disent là que, pour reprendre le gang que tu avais cité l'autre jour, que la vie commence dès l'érection, là. Alors, ceux qui disent ça disent, la pilule abortive, ça le dit, c'est un avortement. Donc, j'imagine que les États qui interdisent l'avortement, ils peuvent pas vraiment permettre la pilule abortive. C'est un peu bizarre. Ce serait incohérent, non?
Ben voilà. C'est là où l'avis de la Cour suprême va être très important. C'est qu'on a envoyé la question de l'avortement dans la Cour de chacun des États. Il y a des États qui interdisent toute forme d'avortement. Beaucoup d'États qui limitent l'avortement le font en fonction du nombre de semaines. Par exemple, on a ce qu'on appelle les heartbeat laws. À partir du moment où on entend le battement du cœur du bébé, dans les 10 premiers jours, on n'entend pas le cœur du bébé. Donc, il y a plusieurs femmes qui disent, écoutez, on peut avoir accès à cette pilule-là parce qu'on n'est pas encore rendu au nombre de semaines, même le nombre de semaines le plus sévère, à moins d'interdire systématiquement toute forme d'avortement. Okay. Donc, ça peut se faire dans les États, mais un des problèmes, c'est qu'on peut franchir, puis quand on le fait en virtuel, on peut franchir aisément les lignes des États, encore plus quand on consulte en virtuel. Donc, on se trouve à jouer dans la cour de plusieurs États. On se trouve à jouer encore une fois sur le fait qu'une femme puisse décider ce qu'il advient de son corps. Et en même temps, on va peut-être, moi c'est ce que je vais surveiller, remettre en question tout le volet scientifique derrière l'acceptation de ce médicament ou de cette pilule. Et le fait qu'on n'a pas besoin forcément de consulter un médecin pour y accéder. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui va reposer sur un argument scientifique. Et on va c'est l'angle sous lequel je m'intéressais.
On va en entendre des vertes et des pommures. Bientôt, on va interdire dans certains États la masturbation parce que ça va être 10 000 possibilités de bébés gaspillés qui vont se retrouver dans un Kleenex. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Combien d'assassins en Syrie parmi nous?
Je te laisse là-dessus, Luc. Salut. Alors, Luc Laliberté. Merci beaucoup à la formidable équipe avec qui j'ai le privilège de travailler à la recherche, Florence Lamoureux, Marianne Bessette. Merci à la réalisation, la mise en onde de Jean-François Roy, Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup. On se reparle au prochain épisode.